Suffit-il de pouvoir se prévaloir de l'abstention de certains actes manifestement contraires aux exigences des 6e et 9e commandements pour se prétendre juste? À quelles conditions nous appelle le mariage chrétien au plan de ce qu'on pourrait appeler une réserve du cœur? Suffit-il de conserver une fidélité de corps pour pouvoir se dire exempt du péché d'adultère? Et finalement, qu'est-ce qu'exige le respect de la célébration de la vocation du corps humain dans le mariage? C'est dans le cœur de l'homme que tout se joue. Dans ce cœur malade, blessé, bancal, et qui peine parfois à reconnaître qu'il l'est. Et c'est pourquoi, pour éclairer ce propos, je vous propose cette pensée de Jean-Paul II dans une de ses audiences sur la théologie du corps. Par la catégorie du cœur, dit-il, chacun est personnellement individualisé, plus encore que par le nom, et il est rejoint en ce qui le détermine de manière unique et irremplaçable. Et je vous propose d'aborder ces questions difficiles en trois points. D'abord, la question de l'adultère dans le cœur, qui est une notion assez nouvelle et sur laquelle Jean-Paul II développe un certain nombre de réflexions. D'autre part, la question de l'adultère intérieur, qui, parfois sous les meilleurs prétextes, risque de détourner les époux de l'exigence d'exclusivité qu'ils se sont consentis l'un à l'autre dans le sacrement de mariage. Et puis enfin, la question de savoir si, aussi paradoxal que cela puisse sembler dans les mots, il est possible d'être adultère avec sa propre épouse ou son propre mari. Le deuxième volet de ce que Jean-Paul II appelle le triptyque scripturaire de la théologie du corps est constitué de ce passage du sermon sur la montagne où le Christ dit « Il vous a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. » Moi, je vous dis, celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et Jean-Paul II fait remarquer qu'une traduction plus exacte et en même temps plus ancienne de ce passage serait « Celui qui regarde une femme pour la désirer l'a rendu avec lui adultère dans son cœur ». Et cette traduction a l'avantage, fait remarquer Jean-Paul II, de montrer les conséquences potentielles sur l'autre d'un péché qui semble, à première vue, ne concerner que le secret du cœur de celui qui le pose. Et cela montre que si le fait de regarder une femme pour la désirer a pour conséquence de rendre cette femme adultère dans son cœur, c'est que le fait de le regarder de cette manière-là n'est pas neutre. Et que même si cette attitude intérieure de l'homme ne se traduit par aucun acte extérieur, il n'en produit pas moins un effet sur celle qui est regardée de cette manière. Et ça nous montre que le regard que nous portons sur l'autre n'est jamais neutre. Et que s'il n'est pas ajusté, il est susceptible d'engendrer chez l'autre un regard, une attitude de même nature. Par ailleurs, quand le Christ dit « tout homme qui regarde », il faut bien voir qu'il s'adresse en même temps à chacun et chacune d'entre nous, et pas seulement à ses interlocuteurs du moment. Et Jean-Paul II dit « cet homme est en un certain sens chaque homme, chacun de nous ». Le Christ s'adresse à l'homme d'un moment déterminé d'histoire et en même temps à tous les hommes qui appartiennent à la même histoire humaine. Mais il s'adresse également, non seulement à la femme, à l'homme, mais également à la femme, qui peut, elle aussi, porter sur l'homme un regard qui n'est pas ajusté avec son exigence éthique. Et c'est pourquoi Jean-Paul II précise, si le Christ s'adresse directement à l'homme comme à celui qui regarde une femme pour la désirer, cela ne veut pas dire que ces paroles, en leur sens éthique, ne se réfèrent pas également à la femme. Et il insistera dans une audience ultérieure en disant « les paroles du discours sur la montagne ».